Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Odette pour le témoignage. Ça nous a réveillés ce matin. Ça nous a encouragés. Merci beaucoup. Et merci Sylvie aussi. Hein, c'est bien. Hein? Et c'est vraiment bien quand les gens témoignent. Hein? Il faut, si ça vous prend dans le culte, c'est bien de se lever et de témoigner. C'est bien. Je veux encourager ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller et... Il y a assez de prédicateurs hein, qui prêchent et ça, c'est bien quand d'autres parlent parce que c'est, je pense même c'est plus inspiré quand ça vient spontané comme ça, quelquefois qu'on a à cœur comme ça. Et donc gloire à Dieu. Et donc voilà, vous avez entendu parler sans doute de la caverne d'Ali Baba. Qui connaît la caverne d'Ali Baba et les 40 voleurs Et il y avait beaucoup de trésors dans cette caverne. Hein? Ouais, ouais, ouais. La caverne d'Ali Baba. Et donc, ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre caverne. Hein? La caverne d'Adoulam. Vous avez déjà entendu parler de la caverne d'Adoulam? Il y avait aussi des trésors dedans. Parce que c'était une caverne où, comment je peux dire, le renouveau a commencé. Parce que c'était la caverne où le roi David s'est réuni avec une petite bande de soldats qui voulaient reprendre le royaume. Parce qu'ils étaient persécutés, ils étaient méprisés, ils étaient chassés par Saül. Et eux, ils voulaient reprendre le royaume. Et donc... Dans 1 Samuel, chapitre 22, il nous parle pour la première fois de cette caverne d'Adoulam. Et peut-être notre église, c'est comme une petite caverne là, où on se réunit. Hein, on a le PowerPoint et tout le reste. Et donc, chapitre 22 de 1 Samuel, il dit, « David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Adoulam. » Donc il a trouvé refuge dans cette caverne. Et après il dit ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils y descendirent vers lui. Et donc c'était très familial aussi. Hein? Comme nous on a les clans bio et tout le reste. Hein? Mais il y a d'autres aussi. Et ce qui est magnifique là, verset 2, hein? Il dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devient leur chef. Alléluia. On dit, mais c'est pas forcément très promettant, ça, ce temps de réveil. Et d'un côté, il dit, venez, venez. Et donc, il y a tous les mécontents et tous les endettés. Et après, tous les gens qui étaient dans la détresse. Et ça m'encourage, ça ne me décourage pas, parce que quelquefois, Dieu il fait un travail de renouveau avec la réalité de nos situations, dans nos détresses, dans nos misères, même dans notre endettement quelquefois. Il dit, voilà, venez, venez, tout est possible. Ceux qui étaient chargés sont venus. Et donc... Il y avait quand même, il restait pas dans leur problème. Parce que si on tourne quelques pages, on trouve 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 11. On va rester dans ce chapitre. Hein. 1 Chronique, chapitre 11. Et verset 15, on retrouve notre caverne d'Adoulam. Et nous lisons, c'est dans un passage qui parle des vaillants hommes de David. Les vaillants hommes. Toi, verset 15, « Toi des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adoulam lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. » Et donc, quand on voit ça, on dit, mais ces gens mécontents, en détresse, avec des problèmes, ils ne sont pas restés dans leurs problèmes. Ils ont été transformés dans cette caverne d'Adoulam. Mais comment ont-ils été transformés? C'est parce qu'il y avait l'onction qui était sur le roi David. Et donc, dans la présence du roi, ces gens en détresse sont devenus des hommes vaillants. Et moi, pour notre époque, j'ajoute les femmes là-dedans. J'ajoute beaucoup de femmes là-dedans, dans notre caverne d'Adoulam. Et dans cette caverne, il y avait la présence de Dieu. Et nous, on a un plus grand maintenant que le roi David. Nous avons le roi Jésus-Christ. Et le Christ, ça veut dire le roi, le Messie, celui qui est roi, celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui. Et Jésus, en mourant sur la croix, il a créé des conditions pour que tout le monde puisse recevoir le Saint-Esprit. Avant, pour avoir le Saint-Esprit, c'était très délicat. C'était des Lévites qui allaient une fois par année dans le temple. Il fallait tout couvrir par le sang d'un animal et tout ça. Et le Saint-Esprit, il venait un peu de temps en temps. Il oignait des prophètes, il donnait une parole. Mais après, il est reparti. Il n'y avait pas la présence de Dieu dans le cœur de l'homme tout le temps. Parce que le voile devait être déchiré. Et c'est ça ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix. Il a ouvert la possibilité à toutes les gens en détresse, toutes les mécontents, de recevoir le Saint-Esprit dans leur cœur. De recevoir le Saint-Esprit. De recevoir la vie de Jésus. De devenir les petits messies. De devenir les petits Christ. C'est ce que nous sommes. Nous avons l'onction, la présence même de la vie de Jésus en nous, qui est un cadeau de grâce. Ça passe par la croix. Il n'y a pas de raccourci. Dieu ne va pas oindre ta chair, ni ta vieille nature, ni ton orgueil, ni ton péché. Là, il crucifie tout notre passé, tout ce qui est mécontent, tout ce qui est misérable, tout ce qui est blessure, tout ce qui est maladie, tout ce qui est difficile, onéreux, tout ça, on la porte à la croix. Tout notre passé, c'est vrai, quelquefois, c'est un long chemin. Même si Jésus l'a fait, quelquefois c'est tout un travail pour l'appliquer à notre cœur. Mais quand même, c'est la vérité. Je ne veux pas vider cette croix de sa puissance ce matin. Tout est possible au pied de la croix. Tout est possible. Même la résurrection des morts, même les cas les plus désespérés. On peut, comme ce larron qui était sur la croix, de dire, mais Seigneur, tu vois toute ma vie gâchée, toute ma vie abîmée, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton paradis. Et Jésus a dit, mais aujourd'hui même, voilà, quelle grâce. Tout a été transformé parce que l'onction était là, à côté de ce brigand sur la croix. Et ce brigand a reçu, même dans sa douleur, il a reçu le Saint-Esprit. Il a été transformé. Il est mort un homme heureux. C'est incroyable. Il avait raté toute sa vie, mais il est mort un homme heureux parce qu'il avait reçu Jésus dans son cœur. Alléluia. Et donc, dans notre petite caverne, il y a une onction. Il y a la présence de Jésus-Christ avec nous. Et il nous transforme. Il fait de nous des hommes et des femmes vaillants, victorieux, où tout est possible, les hommes vaillants de foi, avec des projets. Et moi, je vois dans notre caverne d'Adoulam à Wavra, je vois des hommes et des femmes vaillants devant moi. Et c'est ce que l'ange a dit à Gédéon. Il a dit, Gédéon était là, en disant, je suis le plus pauvre, le plus petit, le plus méprisable de ma tribu. Et l'ange lui a dit, homme vaillant, lève-toi, c'est toi qui sauveras. Et il dit, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible. Parce que Dieu, il prend plaisir à nous transformer. Il prend plaisir à nous transformer. Et après, bon, on va continuer l'histoire. Parce que on est transformé par l'intimité, d'accord? C'est pas en faisant des efforts, mais en se laissant aimer qu'on est transformé. Je vais le redire. C'est pas en faisant des efforts, mais c'est en se laissant aimer, inondé par l'intimité. par la grâce et l'amour de Dieu. C'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous donne la force. C'est pas quand quelqu'un pointe le doigt et dit « Oh, tu dois faire ça, tu dois faire ça, oh, t'es mauvais, je te juge. » C'est pas ça qui nous transforme. Ça, c'est la loi. Mais ce qui nous transforme, c'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça qui nous transforme. Et c'est pour cela qu'il faut cultiver une présence auprès de celui qui nous aime. Il faut passer du temps dans sa présence, être bercé par ses bras d'amour. Il faut développer une sensibilité à son cœur. Donc la première chose, je veux parler de l'intimité. Et verset 17, c'est une bonne petite histoire d'intimité, toujours dans 1 Chronique chapitre 11. Nous lisons, David exprima un désir. C'est beau ça. David, le roi, il exprime son désir. Je ne sais pas comment il a exprimé son désir. Je ne sais pas. Comment on exprime un désir? Il y a des paroles, mais il y a aussi des gestes. Il exprime un désir. Le désir du roi. Et il dit, il ajoute des paroles à ce désir. Il dit, oh, qui me fera boire? J'ai soif. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Et donc, Bethléem, à l'époque, était une ville occupée. D'accord? C'était une ville occupée par l'ennemi. Occupée par l'ennemi. Et je pense à Dieu, je dis, mais Seigneur, tu désires tellement boire dans les pays où l'ennemi règne d'un côté. Et quelquefois je dirais, même nos propres cœurs, c'est bien si Dieu est le maître de tout, hein, 100%. Mais est-ce qu'il y a des parties de notre cœur qui sont occupées par l'ennemi? J'ai regardé une émission hier. C'était sur 6 francs 6 ou quelque chose, 6 TER, je ne sais pas. Et c'était l'occupation intime, ça s'appelait. Et c'était l'histoire de la France pendant l'occupation. Et je voyais Paris qui n'était plus libre. Parce qu'il y avait les gens qui avaient décidé d'envahir et de mettre leur roi et leur drapeau. C'était très intéressant. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Quelquefois, il y a des mauvaises, les tentations, les mauvais esprits, des choses charnelles qui veulent mettre leur drapeau sur notre cœur, qui veulent nous envahir et dire voilà, ça m'appartient. Et c'est là où je dis non, mais Dieu il regarde notre cœur, il dit oh, j'aimerais tellement boire dans ton cœur. J'aimerais tellement boire dans ton cœur. Allez, que ça soit plus occupé par l'ennemi, mais que ça soit donné à 100%, nettoyé à moi. Mais ce n'est pas juste notre cœur, c'est aussi toutes ces, dans la réalité de la vie, quand ils voient le Maroc ou la Tunisie ou le nord de l'Inde, ou quand ils voient le Yémen ou la Somalie, quand ils voient autour de nous en France, dans tous ces villages, ils disent, mais j'aimerais tellement boire à Seclin. J'aimerais tellement qu'il y ait un puits à Seclin, parce qu'il y a quelquefois des mosquées, il y a les Auchan partout, il y a des Lidl, il y a toutes sortes de choses où on peut assouvir notre soif pour le matérialisme, il y a les guérisseurs occultes partout, où les gens, bah, je cherche quelque chose. Mais où sont ces puits de vie où Jésus peut boire l'adoration? Et donc, le désir du roi, je dirais, le désir du roi, c'est de boire. C'est de boire dans un puits qui est à Bethléem. Et bien sûr, là, prophétiquement à Bethléem, même avant la naissance de Jésus, David y prophétisait par ce désir, le désir de voir le Messie naître à Bethléem, qui allait ouvrir une source de vie pour toute l'humanité. David exprima un désir. Qu'est-ce que c'est le désir de Dieu? Qu'est-ce que c'est le désir de Christ? Donc là encore, vous connaissez bien les paroles que Paul a écrites à Timothée, dans 1 Timothée 2, chapitre 4. Parce qu'il a exprimé très clairement le désir de Dieu. Il dit, Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. David exprima un désir. Christ exprime un désir. Et quand nous nous approchons de Dieu, il nous imprègne de son désir. Et nous entendons, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je veux boire. Je veux que tous les hommes et femmes soient sauvés. Je veux que tous les hommes et femmes soient libres du péché. Je veux que les gens aient la vie, et la vie en abondance. Je veux plus qu'ils soient dérobés, volés, abusés par l'ennemi et par le péché. Je veux plus ça. Je veux plus voir la tristesse. Ça brise le cœur de Dieu de voir la tristesse. Il n'a pas créé, quand il a créé le monde, il a créé un paradis sans péché. Ça, c'est son désir pour le bonheur de l'humanité. Et c'est comme celui qui a semé l'ivraie parmi la bonne semence. Un ennemi a fait cela. Un ennemi a fait cela. Et un ennemi a volé le bonheur des hommes par le péché en les tentant. Et Dieu veut utiliser son Église pour restaurer ce règne d'amour et de bonheur dans le monde. Il veut nous utiliser. Il veut boire. Il veut que tous les hommes et femmes soient sauvés. Et ça, c'est sa responsabilité d'un côté. Ça, c'est plus grand. Moi, je suis qu'un pauvre serviteur, Seigneur. Aide-moi à partager là où tu m'inspires. Mais voilà, c'est pas à moi de juger. Mais Dieu veut. Et donc, il y a ces hommes vaillants. Vous avez commencé avec l'intimité. Est-ce que vous êtes assez intime pour capter ce désir du cœur de Dieu? Est-ce que cette relation avec Dieu est assez forte en vous pour que vous captiez son désir? Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pas d'obéir aux ordres, d'obéir aux ordres du pasteur, d'obéir aux ordres de la Sainte Église. Non, être chrétien, c'est de capter le cœur de Dieu. Et ça, c'est plus large que la religion. C'est beaucoup plus large, parce que la religion, ça crée des lois. Il faut venir au culte, il faut faire ça. Dieu est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Dieu, il dit, mais la chose la plus importante, c'est d'entendre mon cœur. C'est d'entendre mon cœur. Et si on entend son cœur, on va entendre son désir. Et je suis émerveillé par ces hommes vaillants. Parce que verset 17, David exprime un désir. Et verset 18, alors, les trois hommes, ils étaient là, ils dansaient devant David. Non. Ils ont dit, mais c'est super, ton désir. Ils ont fait des chants. C'est bien, il y a un temps pour les chants. Je ne suis pas contre des chants. Ah, super, David, ton désir est de boire. Voilà, on va faire un CD. On va faire un cours biblique sur le désir de Dieu. On va parler de ça. On va faire une théologie calviniste et tout le reste sur le désir de Dieu. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont capté le cœur de Dieu. Et alors les trois hommes forcèrent le camp des Philistins. Alléluia! Ça a passé à l'action. Tout de suite, il y avait, tu veux, je fais. Tu veux, je fais quelque chose. Tu veux, je fais. Et ça, une vraie relation avec Dieu. Une vraie intimité avec Dieu se traduit toujours par l'action. Et cette intimité qu'ils avaient entendue, ça a fait une brèche dans les rangs de l'ennemi. Alléluia. Ça a fait une brèche dans les rangs de l'ennemi. J'étais content hier parce que Sylviane m'a dit que vendredi soir, ça s'est très bien passé là, groupe contact. Il y avait des nouvelles personnes, il y avait les gens qui entendaient la parole de Dieu, qui discutaient, un jeune qui était là. Vous voyez, quelquefois... Amen. Amen. Vous voyez que quelquefois, on peut entendre quelque chose, le désir de Dieu. Et après, voilà, on passe à l'action. Et peut-être c'est des actions tellement petites quelquefois, mais il faut commencer quelque part. Et Dieu, il dit en Zacharie, il ne faut pas mépriser le jour des petits commencements. Parce que c'est tout feu de forêt, ça commence avec une petite allumette quelquefois. Hein? Un petit mégot, le grand feu de Londres, hein? Ça brûlait tout Londres. Ça a commencé avec un petit feu dans un boulangerie. Et donc, même une petite semence semée, il ne faut pas toujours être dans l'instant. Parce que quelquefois, une semence, ça prend des années quelquefois. Ça multiplie un, ça devient deux et après quatre. Mais avec le temps, tout ce qu'on sème, surtout nos prières, tout ce qu'on sème, ça porte du fruit. C'est sûr. Il ne faut pas laisser l'ennemi vous convaincre autrement. Et surtout quand vous dites, ah, je ne vois rien, il faut là encore appuyer, mais je crois quand même. Ça, c'est plus de gloire à Dieu, de croire quand même. Et quand on voit le fruit, on dit merci Seigneur. Merci, merci. Et donc, ils ont entendu et ils ont fait une brèche dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Ils étaient courageux. Et là, il dit, après David, il parle un peu plus tard, la moitié de verset 19, il dit, mais c'est au péril de leur vie qu'ils sont partis. C'est au péril de leur vie. Ils ont pris des risques. Ils ont osé passer à l'action. Ça, c'est la chose la plus dure à faire quelquefois. C'est d'oser passer à l'action. Faire... N'ouvre notre bouche, pas. Pas par... C'est pas par... Comment je peux dire? Il y a une partie, peut-être une petite partie obligation là-dedans. Parce qu'on a envie quand même. Mais il ne faut pas qu'on se sente vraiment obligé. Il faut qu'on soit porté par l'intimité. C'est ça la clé. Si on est tout plein, tout vide, loin de Dieu, il ne faut pas faire l'évangélisation par obligation, quoi. De dire, voilà, mon pasteur dit que je dois évangéliser l'église. Non, non, il faut... Mais quand on capte le cœur de Dieu, quand on entend le désir du roi, et il dit, mais Robert, je t'aime et je bois de ton cœur, premièrement. Quand j'entends tout ça, et après, quand j'entends, mais ce que je fais pour toi, je veux faire pour les autres. Là tu es porté, c'est comme naturel de faire quelque chose, de faire une petite brèche quelque part. On n'a pas besoin de gagner les nations, de faire un grand exploit, mais peut-être notre exploit c'est de parler à une personne. Et donc commençons à faire des brèches dans les rangs de l'ennemi. Et après, je dirais, il y avait l'intimité, écouter le cœur de Dieu, après il y a l'action. Et après, la troisième chose, il y a l'adoration. Parce que David, après les trois hommes, ils apportent de l'eau à David. Allez David, on a fait un exploit pour toi, c'est pour toi. Et je pense que c'est bien, parce que quand on fait de l'évangélisation, quelquefois, les gens, il y a une tendance de dire, oh mais je suis bien, tu vois, je suis bien, j'ai fait ça pour Dieu. C'est l'orgueil de l'homme, c'est très subtil quelquefois. Mais moi, j'aime bien parce qu'il dit, mais c'est pour toi, Jésus. C'est pour toi. Et après, j'aime... Bon, j'ai dit Jésus, c'est David. Hein, mais bon, il est une image de Christ. Et David, il fait quelque chose d'extraordinaire. Après, il prend cette eau et il répand ça par terre. Il dit, je ne peux pas boire ça. C'est trop précieux. Et ça, c'est un acte d'adoration. C'est vraiment, il dit, voilà, toute la gloire. Et pour toi, Seigneur. Comme ça, il n'y a pas la place pour l'orgueil de l'homme. Il n'y a pas même la place pour l'échec de l'homme. Parce que quelquefois, quand on est l'échec, on brûle nos doigts, on fait des erreurs. Mais tout ça, Dieu est au-delà de ça. Il dit, tout cela, c'est pour moi. Allez, on répond ça par terre. Et une église qui capte le cœur de Dieu, qui passe à l'action. Et après, toute sa vie, c'est une adoration. Pas juste par les chants c'est magnifique. La liturgie d'une église est magnifique. Dieu a créé un peu le dimanche matin pour un temps de liturgie dans toutes ses formes. Mais la vie chrétienne est au-delà d'une liturgie. La vie chrétienne, c'est au-delà de notre liturgie de dimanche, parce qu'il y a toutes sortes de liturgies. On a notre liturgie de Wavre. Et c'est magnifique comment on fait notre culte. Mais la vie chrétienne est au-delà de nos liturgies. Ça doit être passé à l'action, inspiré par cette intimité avec Jésus-Christ tous les jours. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est au péril de notre vie, au péril de notre vie qu'on a agi. On a pris des risques pour toi cette semaine. Gloire à Dieu pour des risques. On témoigne aux gens. On est connus comme des fous de la famille. T'sais. Mais c'est bien parce que ce qui est une folie aux yeux des hommes, et souvent la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Et donc voilà, tout simplement, intimité, action, adoration. Et donc il me reste un peu de temps là. Et donc je ne sais pas si moi j'ai beaucoup aimé le projet de 3 semaines que nous venons de vivre. J'ai un peu peur de le quitter, parce que je vois que j'aimais bien mon jeune Daniel. Et maintenant, bon, j'ai passé une semaine en Suisse avec le fromage, avec les raclettes, avec les fondues, avec le chocolat. Et là, j'étais comme dopé, là, et une plaque de chocolat. Et Sylviane, elle me dit, mais Robert, il faut juste prendre un carré à la fois. Mais je ne sais pas comment il arrive. Moi, j'arrive pas. C'est tout ou rien. Je suis un homme tout ou rien. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de chocolat qu'il y ait du chocolat. Alors là, en Suisse, il y a du chocolat partout. Alors, je ne sais pas, j'ai vraiment consommé. Et après, il fallait fêter avec les oncles, les tantes et tout ça. Et donc, le 20 décembre. Bon, je ne me suis pas trop saoulé, mais quand même, après 3 semaines de l'eau, je volais là. Et donc, ça me manque un peu. Ça me manque un peu. Et donc, toujours avec cette idée de opportunité et pas obligation, d'accord? Jamais une obligation. Mais j'étais très interpellé par Chris Morton quand il est venu là avec ses groupes de croissance. Bon, il y avait certaines choses qui m'ont interpellé et d'autres choses où je dis, oh, ça c'est un peu trop fort. Je vais dire tout de suite que les questions, je dis, oh, je ne veux pas regarder quelqu'un droit dans les yeux et dire, voilà, bonjour, est-ce que tu as eu des pensées adultères cette semaine? Je pense pas que j'aimerais faire ça. Et donc, peut-être on peut, si vous voulez, ça va, mais peut-être on peut garder ce qui est bon. Garder ce qui est bon. Et non, je ne suis pas contre Christ, il ne faut pas dire que je suis enregistré Christ, je t'aime. Mais peut-être le côté question, et aussi la quantité de la lecture biblique aussi, ça m'effrayait un peu aussi, c'est 15, et un peu, si on ne l'a pas fait, il faut le refaire. Et bon, encore là, ça doit marcher dans les contextes et tout ça, et je ne suis pas contre. Mais juste ce que j'aimerais présenter, c'est que je pense pour notre Église, ça serait bien d'avoir plus de relationnel entre nous et d'avoir un plus grand appui pastoral. Parce que le fait qu'on se trouve un peu éloigné géographiquement, et je dirais le dimanche matin, bon, c'est pris par beaucoup de choses, le mardi soir, bon, c'est une option, on peut prier le mardi soir, souvent les gens ils prennent rendez-vous avec moi, on peut toujours prier. Mais j'aimerais bien avoir des contextes où les gens peuvent avoir plus d'appui relationnel et pastoral. Et donc c'est pour ça que je pense trouver un petit triplé avec d'autres personnes, c'est bien. Je pense aussi que l'idée d'avoir des groupes femmes et des groupes hommes, c'est aussi une bonne idée. Parce que ça peut donner plus de liberté. Bon, c'est à revoir, mais je pense quand même femmes, hommes. Et aussi les hommes, je pense, nous les pauvres hommes, on est timides quand même. Et quelquefois on est mieux entre hommes, parce qu'on est mieux entre hommes quelquefois. Et donc, Et donc, voilà, au lieu d'avoir des questions comme on a eu, peut-être on peut avoir une idée de dire, est-ce que vous grandissez en Christ? Juste quelque chose de plus cool. Est-ce que vous devenez de plus en plus comme Christ? Et voilà, intimité, action, quelque chose comme ça. Hein? Comment est-ce que c'est votre relation avec Jésus cette semaine? Ou qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez pu faire? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour quelque chose? Mais là, grande souplesse avec ça. Et au niveau lecture, je vous propose pour 3 semaines, d'accord? Peut-être on peut commencer, bon, j'invente un peu, le 4 janvier, hein, la début de l'année, du 4 au 25, d'accord? Que tout le monde, même si vous êtes en triplé ou seul, c'est pas grave, mais que tout le monde, pendant ces 3 semaines, lit Romains 12. D'accord? Romains 12. Romains 12. Pour 3 semaines. Ça veut dire que vous pouvez lire un passage, 2 passages, un verset, 2 versets, mais de méditer et de reméditer, et plus comme une méditation, Romains 12, pour 3 semaines. 3 semaines. Et que si possible pendant ces 3 semaines, d'essayer d'avoir au moins une réunion avec 2 autres personnes. Au moins une réunion avec 2 personnes. Si vous voulez faire une réunion par semaine, parce que je vois qu'il y a les gens qui sont plus ambitieux, ça c'est très très bien aussi. Ou même, vous êtes libre, vous verrez 12. Non, mais pour moi, je dirais une semaine, bon, une réunion par semaine, ça serait bien. Et ça serait à vous de choisir vos partenaires. Ça peut être les gens de l'église, ça peut être même les gens qui ne sont pas dans l'église. C'est comme Domi, elle a déjà fait, ils ont déjà mis en place un triplé avec 2 dames. Et ça marche, elle a pris plaisir avec ça et ça répond à un besoin. Et donc même si vous avez les gens qui ne viennent pas à l'église ou qui sont d'une autre église, ce n'est pas grave, hein? et vous n'êtes pas obligé de vous réunir. Il n'y a rien de pire que d'avoir une obligation de se réunir avec quelqu'un où peut-être la mayonnaise ne prend pas forcément, hein? Je sais qu'on est frères et donc on s'aime tout le monde, frères et sœurs, mais je ne vous oblige pas à vous asseoir dans un groupe où on dira « j'aime pas, je suis mal à l'aise ». D'accord ? Vous pouvez choisir. Et vous pouvez choisir le temps, le contexte, l'endroit et tout. Je pense quand Sylviane est de retour, elle va m'aider avec les détails pratiques de ça. Parce que là, je ne sais pas. Je connais mes limites. Mais c'est surtout l'idée de Romains 12. J'ai dit, voilà, d'avoir ça comme base. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Mais je pense que ça serait bien de... C'est très pratique. Ça parle des dons du Saint-Esprit. Donc, c'est une continuation de notre prière. Et ça parle aussi de la victoire de l'amour. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Après, il y a un tas de détails pratiques dans ce passage. Et donc, le programme, c'est 4 au 25 janvier de lire Romains 12. Si possible, de créer un petit triplé avec 2 autres hommes ou avec 2 autres femmes et de vous réunir au moins une fois pendant ce temps. Mais si vous voulez vous réunir 3 fois, tant mieux. Tant mieux. C'est très bien. Et si vous n'arrivez pas à vous trouver en triplé, vous pouvez le faire tout seul aussi. Mais c'est beaucoup mieux en triplé, je pense. Priez les uns pour les autres aussi dans ce groupe. Et aussi comme référence, si jamais il y a une explosion ou un problème ou quelque chose de trop lourd qui émerge, je suis là, Sylviane est là, Jean-Luc est là, on est là. On fait quand même dans un contexte ecclésial. Même si on ne veut pas tout contrôler, il y a quand même pour une protection, c'est quand même nous. C'est quand même, il y a cette base, on est là, on prend la responsabilité pour ça, sans vouloir contrôler. Et donc si on fait ça, pour 3 semaines, on verra si cette idée de triplé va nous prendre et va se développer tout seul après. On peut faire un bilan après pour voir s'il y a de la vie là-dedans, s'il y a des surprises. Mais au moins, ça nous donne un deuxième projet à faire. Assez, pas trop lourd, hein. Je ne pense pas que c'est trop lourd, hein. Il n'y a pas de jeûne, Donc on va grossir. Mais quand même. Alléluia. Alléluia. Et donc, aimer Dieu, on entend son désir, on passe à l'action et on donne tout ça à une adoration à Dieu. Voilà, les hommes et les femmes vaillants. Quel plaisir d'être dans une telle église. Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur, à vraiment à glorifier ton nom. Et Seigneur, on ne veut rien faire par obligation, mais on veut être motivé, on veut voir des opportunités. Merci pour des groupes contacts. Mais Seigneur, aide-nous aussi à stimuler aussi l'appui pastoral et l'appui relationnel dans notre Église par ces petits triplés, Seigneur. Oh Seigneur, montre-nous, là dans nos zones géographiques, comment nous pouvons mettre en place des choses. Donc voilà, je remets ça entre tes mains. Bénis chaque personne maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.